Bonjour, Raymond Richard au micro. Bien, nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe avec Michel Borges-Monory. Et bien, au menu européen, bon, quelques affaires un peu très négatives, puisqu'il y a eu ces attentats à Bruxelles. Et puis le train-train quotidien de l'Europe, eh bien, où en est-on dans la crise des réfugiés? Comment gère-t-on Bruxelles? Où en est l'Angleterre dans ses relations avec l'Europe? Bon, voilà. Alors, quid de, des attentats de Bruxelles? Commençons par le plus évident et en même temps le plus dramatique. Mais pas tant dans l'histoire des attentats, ça on nous en a rebattu les oreilles. Que de ce que cela signifie par rapport à notre mission d'Européens et nos convictions d'Européens, nos convictions de solidarité, notre conviction d'humanisme. Parce que j'ai l'impression quand même qu'en ce moment, nous ne faisons pas de progrès.
Oui, bonjour Raymond. Effectivement, les informations... L'actualité ne sont pas très brillantes. Et ces attentats à Bruxelles, moi personnellement, je me suis senti quand même très très touché par ce qui est arrivé dans la capitale de l'Europe, parce que j'y ai moi-même vécu pendant près de 25 ans. Et je connais très bien la station Malbec où il y a eu cet attentat, cette explosion. J'ai été très touché par ce qui est arrivé. Et j'ai pensé évidemment à la vie que je menais là-bas, à tous les collègues, anciens collègues et amis qui s'y trouvent. Mais au-delà de cette dimension personnelle, il est clair que c'est l'Europe en tant que telle qui est touchée, puisque nous sommes avec cette
émission. Et touchée au cœur.
Touchée au cœur. Mais c'est symbolique, c'est-à-dire que ce sont nos propres valeurs qui sont également attaquées. Je dois dire que c'est là où se trouve le fond des choses. On a évidemment les actes de terrorisme et de la barbarie. On se demande même quelle est la dimension, le caractère humain de telles choses. On a du mal à imaginer qu'un esprit normalement constitué puisse arriver à de telles extrémités. Mais on se rend bien compte que derrière tout cela, il y a une idéologie fascisante dans la mesure où il y a un dogme qui est prescrit de vivre selon tel modèle et puis on refuse et on élimine toutes les populations qui ne sont pas d'accord. Donc il y a une irresponsabilité sur le plan de l'humanisme qui est absolument considérable et ce sont donc nos valeurs et la démocratie qui est attaquée parce que évidemment nous sommes, et notamment en Occident et notamment en Europe, un endroit où la démocratie, la liberté d'expression, la tolérance, on peut avoir plusieurs religions qui vivent côte à côte dans un même espace sans problème. Or, on a en face de nous précisément des terroristes qui n'acceptent pas ce fait de notre vie qui est ainsi constitué. Alors,
Est-ce que justement dans cette réflexion, puisqu'on s'en prend à nos valeurs, est-ce que finalement nos valeurs, nous les vivons réellement? Parce que quelque part, je suis stupéfiée de repérer que ce ne sont pas des gens extrêmement pauvres, dirons-nous. On aurait pu imaginer que ceux qui sont exclus se révoltent et puis manifestent avec violence. Non, ce sont des gens éduqués, ce sont des gens qui appartiennent à une certaine classe moyenne. Donc, on se pose quand même des questions parce que est-ce qu'on n'est pas trop dans nos démocraties, dans des sphères politiques entre soi? On se rencontre entre partis, on se rencontre entre partisans de l'Europe, contradicteurs vis-à-vis de l'Europe, entre syndicats. Mais finalement, la réelle démocratie, c'est-à-dire le fait du vivre ensemble et d'échanger des points de vue. On a des vérités différentes. Je pense qu'il y a peut-être la vérité, elle est difficile à atteindre, mais chacun imagine son propos, mais quels sont les lieux où on peut s'interpeller sans s'injurier, en écoutant comment on en vient à cette réflexion, et c'est ça que je me pose. L'Europe qui était et qui reste à mes yeux cet endroit idéal, où ces échanges peuvent se faire entre pays, et évidemment aussi entre couches sociales des pays, entre pratiquants diverses religions des pays. Or, on a l'impression quand même que chacun se replie sur sa niche, chacun se replie sur ses privilèges, et que finalement, ceux qui sont exclus de ce qui apparaît possible en viennent à dire « Eh bien, je désespère et j'en arrive à ça. » Je pose une question là.
Mais je ne crois pas qu'il y ait une réponse toute faite à votre question, mais vous avez tout à fait raison de souligner que nos sociétés, ces dernières années, ont tendu à un certain communautarisme en réalité, avec un chacun pour soi, un repliement sur soi, qui non seulement se constate au niveau national, ce n'est pas pour rien qu'il y a des courants populistes, comme on dit, des courants nationalistes, de se cacher derrière chacun nos frontières. On le voit très bien au niveau de la politique européenne et de ce qui se passe, comme si les leçons de la ligne Maginot en France n'avaient pas été tirées. Donc il y a ce repliement sur soi qui se voit également au niveau de la société. Et alors chacun reste dans son petit coin, critique le voisin, et effectivement il y a moins que par le passé cette possibilité et cette tolérance aussi de pouvoir admettre d'autres courants de pensée. Alors les lieux, évidemment dans une démocratie, les lieux traditionnels, ce sont les représentants du peuple, les parlements, les institutions, mais il y a parallèlement tout un très très considérable réseau d'associations, d'organisations non gouvernementales, de particuliers, de privés qui travaillent et qui pratiquent des échanges. Et c'est là où on devrait trouver finalement le plus d'ouverture à ce niveau. Alors parfois on critique la numérisation, tout ce courant moderniste avec la technologie, mais également, bien que je ne sois pas du tout un pratiquant de la chose, entre les systèmes de Twitter et etc., il y a aussi des réseaux dits sociaux qui se créent à travers les nouvelles technologies et qui devraient en tout cas permettre l'échange dont vous parlez, à condition précisément que ce ne soit pas pour projeter vers l'extérieur des vindictes à l'encontre d'autres. Et ça, c'est effectivement
J'ai l'impression que justement, il n'y a pas cette possibilité. Pardon,
je vous ai... Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est ça rejoint tout à fait vos propos d'il y a un instant, c'est il y a un manque de lieux, d'échanges, mais ceci traduit précisément, je pense, l'espèce d'atmosphère qui règne de manière générale dans notre monde actuel, qui est à travers la crise économique, il y a des crises sociales, il y a le chômage, du crise
donc
politique.
Donc c'est la suspicion généralisée.
Il y a un courant qui me fait penser, on l'a déjà souligné à l'une ou l'autre reprise dans le cadre de cette émission, mais il y a une espèce de relan des années 30, quand on est un peu historien, et qui rejaillit et qui est évidemment très préoccupant. Parce que rappelons-nous quand même, l'histoire devrait aussi, la connaissance de l'histoire devrait nous permettre de nous éclairer en tout cas sur les moments présents et sur notre avenir. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des Robert Schuman, des Jean Monnet, des De Gasperi, des Adenauer pour relancer l'ouverture et tendre la main aux voisins qui étaient l'ennemi traditionnel pour qu'on se mette tous ensemble autour d'une table, unis dans la diversité. Unis dans la diversité,
voilà,
c'est précisément la devise de l'Europe.
Oui, unis dans la diversité. Or maintenant, à travers un réseau, on communique avec les gens de son réseau. Et lorsque un réseau différent ou des propos d'un réseau différent se diffusent, il y a immédiatement une réaction souvent extrêmement violente, ce qui ne permet pas de pouvoir s'entendre, de pouvoir s'expliquer sur pourquoi on en est là. Parce que le fait de « je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'échange avec lui, je lui donne le temps de m'expliquer sur pourquoi on en est là », ça permet de me faire bouger moi et peut-être de le faire bouger lui. Mais là, on a l'impression que les réseaux fonctionnent. Alors, il y a un système d'échange extraordinaire, mais en même temps, on est connecté surtout entre soi. Et c'est là que peut-être, au niveau européen, enfin, l'Europe, les jumelages, le fait d'échanger entre les pays et d'avoir ces difficultés peut nous permettre de se dire, peut-on aussi échanger avec ses voisins? Peut-on échanger avec ceux qui ne pensent pas comme moi, mais qui sont juste à côté? Sur ce, nous allons faire une première pause musicale avant de poursuivre notre réflexion sur l'Europe et peut-être d'entrer dans justement ce qui se passe en Europe. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bienvenue en Europe. Et à cet égard, sur ce repli sur soi, un bon exemple, c'est la question anglaise. On a évoqué justement Brexit, pas Brexit. Est-ce que les Anglais vont sortir de l'Europe? Alors, il m'a été donné de recevoir ou de lire des papiers qui circulent en Angleterre et dans lesquels on explique que, eh bien voilà, depuis que la Grande-Bretagne est intégrée à l'Europe, elle a dépensé 20 billions de pounds, donc 20 milliards de pounds. Alors déjà, si on réduit par année, déjà ça fait beaucoup moins. Et c'est vrai aussi qu'on insistait sur ce que la Grande-Bretagne avait contribué à donner, mais on ne parlait absolument pas de ce que la Grande-Bretagne avait reçu. Et puis aussi, ce qui m'intéressait aussi, c'était la personne, bon, manifestement, nous étions dans un parti qui souhaite que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, qui expliquait que la cité de Londres avait des activités et que ces activités, qui sont dans certains cas tout à fait négatives, puisque la Grande-Bretagne est un des lieux, et la cité est un des lieux des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale connue de tous, et la cité, justement, s'alarme de cette possibilité de sortir de l'Europe parce qu'elle pourrait peut-être faire un peu moins d'affaires juteuses. Mais en attendant, là, on évoquait de façon mais absolument réaliste et sans tenir compte de qui pouvait lire ces papiers, que eh bien, l'activité de la Grande-Bretagne, de la cité, ça permettait à la cité de vivre, ça donnait de l'argent à la Grande-Bretagne et que ce que voulaient les Européens, c'était partager ce gâteau. Donc, il y avait deux thèses. Premièrement, la Grande-Bretagne a beaucoup payé. On oubliait de dire qu'elle avait aussi beaucoup reçu et que peut-être les échanges avaient été positifs. Et aussi qu'il fallait que l'activité de la cité ne serve qu'à la Grande-Bretagne. Et que si les autres voulaient que l'Europe se fasse, y compris dans la Grande-Bretagne étant intégrée, c'était pour que les activités de la cité se fassent aussi au profit de la Grande-Bretagne. Et j'ai trouvé que dans cette propagande, il y avait une espèce de caricature de ce que les uns et les autres sommes et faisons, à savoir toujours nous voulons privatiser les bénéfices et socialiser les pertes. Voilà,
il y a dans cette affaire de la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne un problème qui nous renvoie chacun effectivement aux égoïsmes nationaux actuels. Alors du côté britannique, ce n'est pas la première fois qu'il réclame, comme l'avait crié à l'époque Madame Thatcher, « My money back, I want my money back, je veux le retour de mon argent ». Ceci évidemment est un mauvais procès, tout le monde en est bien conscient, parce que de nombreux économistes ont publié, notamment ces derniers temps, des études très poussées sur le coût d'une sortie de la Grande-Bretagne, et le plus grand perdant, ce serait les Britanniques. Donc il y a non seulement les arguments sont stupides, mais ils sont surtout faux. Le coût le bénéfice de la Grande-Bretagne en étant en Europe est bien plus important que ce que cela lui coûte. Et il faut quand même rappeler que c'est la moindre des choses d'avoir un budget quand on est dans une union, dans une communauté, de partager un certain nombre de choses, non seulement des valeurs, il n'y a pas que le commerce, mais aussi il faut, sur un plan tout à fait mercantile ou pécunier, financier, partager ne serait-ce qu'un minimum de budget commun. Alors le budget européen des communautés de l'Union européenne représente que 1% du montant total du PIB de l'Union européenne, ce qui est absolument ridicule. Et sur ces sommes ridicules, les Britanniques ne cessent de crier en disant que ça leur coûte trop cher. Ceci est parfaitement non seulement injuste, mais faux. Et ensuite, la Grande-Bretagne tire beaucoup plus de bénéfices en étant à l'intérieur du marché unique que si elle était à l'extérieur. C'est d'ailleurs bien pour cette raison-là que les responsables de la City, c'est-à-dire des milieux financiers à Londres, ne sont pas fous. Eux, ils militent pour que la Grande-Bretagne reste en Europe, parce qu'ils ont bien compris que ce n'était pas parce que les Européens voudraient s'emparer de la City, comme disent ceux qui sont pour la sortie, mais au contraire, parce que ceux qui sont pour craignent que précisément s'il y avait une sortie, eh bien c'est la Grande-Bretagne qui va perdre. Elle va perdre non pas par appétit des autres, mais par sa propre bêtise de sortir. Mais bon, peu importe, s'ils veulent sortir, qu'ils sortent. Et puis, il y a actuellement aussi, on le voit bien, à travers les attentats de Bruxelles, à travers les autres séries d'attentats ailleurs, notamment ceux de Paris, la crise des migrants, un repli sur soi, on en parlait tout à l'heure, qui est utilisé par ceux qui prônent la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne en disant, vous voyez bien, on est mieux protégé que si on est derrière nos frontières, on ne peut pas accepter tout cela, donc il faut absolument se séparer et couper. Or, ils ne sont ni dans Schengen, ils ont la Manche qui les protège d'une certaine manière, ce n'est pas du tout la faute de l'Europe s'il y a un problème de migrants. Ensuite, il faut aussi rappeler que la Grande-Bretagne est le pays où il y a le plus fort taux de communautarisme, c'est-à-dire des endroits où des populations ne sont pas intégrées mais vivent séparément de l'ensemble. Et ensuite, on ne peut pas comparer. Il faut comparer ce qui est comparable. La plus grande partie des musulmans, pour dire les choses crûment, qui se trouvent en Grande-Bretagne, ne proviennent pas d'Afrique du Nord, mais évidemment des anciens
pays anglophones.
Et donc, ce n'est pas la même culture aussi. Donc, il faut parler de choses qui soient comparables. Or, dans le cas britannique, il y a tellement de choses qui deviennent ridicules en étant mises sur le devant de la scène qu'on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer.
Un peu sévère vis-à-vis de la Grande-Bretagne, mais il me semble que ce repli sur soi, il atteint aussi la Pologne, les pays d'Europe centrale, c'est-à-dire en fait un ensemble de pays qui étaient pauvres et qui voyaient dans l'Europe un espace où il y avait une certaine richesse et un espace où ils pourraient participer à la richesse. Donc ils voulaient bien socialiser les avantages, alors que l'objectif de chacun, c'est de socialiser les pertes et de garder pour soi les avantages. Donc je crois que cette
tendance est très très importante effectivement du côté des pays de l'Est, et il y a, on le voit bien, vous avez souligné le cas polonais, il y a le cas de la Hongrie, de la Tchéquie maintenant. J'ai entendu l'autre jour une intervention des autorités tchèques devant les médias à l'occasion de la visite du Premier ministre chinois en Tchéquie pour investir dans ce pays. Et les autorités tchèques ont clairement dit que l'Europe, elle venait derrière eux. Ce qui compte, c'est la Tchéquie, point final, et d'être la première place d'investissement de la Chine sur le continent européen, mais que l'Union européenne, comme l'OTAN ou les États-Unis, tout cela venait complètement en arrière-plan et n'était pas du tout une priorité. Donc on est très très loin de l'idéal dont on soulignait les vertus tout à l'heure, à savoir le un besoin, espace un espace de solidarité. C'est bien le mot. C'est le manque de solidarité. Donc, on a parlé du repli sur soi. On crée des lignes Maginot de tous les côtés. On sait où cela mène, c'est-à-dire à des catastrophes. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui essaie de le voir. Et sur le plan européen, c'est très, très inquiétant parce que si notre continent commence peu à peu à se déliter au niveau de sa propre unification, eh bien, on risque d'avoir des lendemains qui feront très très mal. Alors, est-ce qu'il faut, sur un plan historique et de longue durée, en prenant un important recul, se demander si précisément l'Europe n'aurait pas besoin, précisément pour aller plus en avant vers une unité, d'avoir un retour en arrière qui, tout d'un coup, fasse rejaillir quelque chose, mais ce serait quand même malheureux d'être obligé de replonger dans un certain chaos pour se dire que finalement, l'Europe, ce n'est pas le problème, mais c'est la solution.
C'est-à-dire il y a toujours, je peux dire, la vertu des crises. Finalement, de chaque crise, et notamment pour l'Europe, l'Europe a avancé souvent par crise. Donc on peut espérer que la crise...
Il faut toujours garder l'espoir,
que la crise actuelle s'ouvrira sur des lendemains un petit peu meilleurs, ou en tout cas une réflexion mieux partagée. Et pour ceci, nous allons faire une petite pause. Nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe. Alors, nous avons évoqué justement la situation de crise. Et là, alors, est-ce que c'est une crise, la situation des réfugiés ? J'ai l'impression que ça devient maintenant le lot commun, puisque avant la crise des réfugiés venant de Syrie, il y avait la crise venant des réfugiés venant d'Afrique. Il y avait les frontières, on évoquait non pas les frontières par la Grèce et Lesbos, mais on évoquait les frontières de la Méditerranée au sud de l'Espagne. Bon, bref, la crise des migrants perdure. Et là, il y a de nouvelles manières, semble-t-il, de la gérer, qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est déjà fait, c'est-à-dire reporter aux pays du pourtour européen, ici la Turquie, autrefois c'était le Maroc ou l'Algérie ou la Libye qui faisaient ce rôle de, disons, de garde-frontière, garde des frontières de l'Europe. On arrêtait les migrants dans ces pays. Et il y avait des contreparties financières ou des contreparties variables. Qu'en est-il justement de cet accord avec la Turquie qui ressemble beaucoup aux accords antérieurs avec d'autres pays qui ont délégué justement ce rôle de garde-frontière ?
L'accord avec la Turquie, en fait, est beaucoup plus préoccupant que ce qui avait été fait dans le passé, dans la mesure où il traduit là aussi un certain délitement de l'idée européenne et de ses valeurs, mais au-delà, sur un plan plus pratique, il met en avant notre incapacité, en ce qui concerne les États qui font partie de l'Union européenne, à se mettre d'accord pour mettre en place une véritable politique par rapport à ce très fort courant migratoire. Et le Conseil européen des 17 et 18 mars dernier a finalement entériné cet état de fait. Et je dois dire que l'accord qui a été fait, préparé par l'Allemagne, seul, avec le gouvernement turc, et qui ensuite a été décidé, non sans mal quand même, au niveau européen, mais qui finalement a été entériné.
C'est là. Je trouve que c'était une catastrophe humaniste.
Sur le plan, tout à fait, non, mais vous avez raison. Mais sur un plan, je dirais, plus politique, on se rend bien compte de ce délitement européen, dans la mesure où l'Allemagne, qui tout d'un coup pour des raisons qu'on peut comprendre par ailleurs, mais le gouvernement allemand se met maintenant, après avoir ouvert grandes
largement
ses portes,
ses frontières,
s'inquiète des réactions de sa propre population et essaie de modérer le flux qui se tourne vers elle. Mais ce qui est une illustration de ce mauvais état de l'entente entre les pays européens, c'est que, par exemple, la France n'a absolument pas participé, a été tenue à l'écart des négociations qui ont été effectuées de manière bilatérale entre l'Allemagne et la Turquie. Alors après, on sait très bien que chaque État, à force de se replier sur soi, eh bien, on en arrive à ce que le plus fort impose sa loi. Alors, ce qui en est sorti est effectivement non seulement... sur le plan pratique, on peut avoir de grands doutes. Sur un plan des droits de l'homme, également, ce n'est pas pour rien que
ah là,
le Haut Commissariat,
c'est
que c'est une honte, c'est un accord qui est intervenu, qui fait honte, on n'a pas à être fier de ce qui s'est passé, mais en plus, on verra, enfin, personnellement, c'est ce que je crois, que cet accord ne parviendra même pas au but que les signataires lui ont donné. Alors dans cet accord, il est prévu, il y a quatre choses grand thème, c'est que les nouveaux migrants irréguliers seront renvoyés en Turquie. Ceux qui ont passé les frontières de l'Europe, s'ils ne sont pas en situation régulière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu le droit d'asile, on les renvoie chez eux. Mais à la condition qu'en face, les Turcs nous renvoient des migrants immobiles et réguliers, c'est-à-dire pour lesquels le droit d'asile a été reconnu. Donc on arrive à une stupidité.
Moi, je dis que c'est un marchandage.
C'est un marchandage
des hommes, et là, c'est
épouvantable.
Une catastrophe.
C'est une catastrophe. Et en plus, bon, on voit même pas sur un plan pratique comment cela peut fonctionner. Donc on en renvoie un Syrien,
un pour un,
et voilà. Ça, c'est le fait le plus...
Ouais, mais enfin, bon,
comme si cela
hommes,
avait été...
Comme si c'était d'un marchandage.
Ensuite, exactement. Ensuite... parallèlement, les Turcs ont obtenu que le processus d'adhésion à l'Union européenne soit réactivé parce qu'ils espèrent toujours faire partie de cette Union. On se demande bien à partir de quelle valeur ils pourraient la rejoindre. Mais là aussi, c'est une défaite
de l'Europe.
S'il y a une
baisse des valeurs, ma foi, ils peuvent.
Là, compte tenu de l'état de ce régime qui, sur un plan purement démocratique, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. On peut avoir, vis-à-vis de nos amis turcs, une grande estime, mais il faut bien reconnaître que le régime actuel n'est pas du tout celui auquel se rattachent les valeurs des autres pays, en principe, de l'Union européenne. En troisième lieu, cet accord a consisté à donner 3 milliards supplémentaires d'euros aux 3 milliards antécédents. Donc on dit aux Turcs, gardez un maximum, on gardez le côté humain contre de l'argent. Ce qui n'est
c'est
pas,
une forme
ce qui
moderne
n'est pas rien
d'esclavage.
Et en plus, on a doublé la mise. Les Turcs ont obtenu 6 milliards rien que pour ça, alors que les Jordaniens, les Libanais, qui ont des populations considérables de réfugiés...
Eu égard à leur population, en effet...
On va les aider, mais dans des mesures complètement disproportionnées. Et puis enfin, le quatrième point, c'est que les Turcs pourront désormais venir en Europe, dans l'Union européenne, sans visa. Donc voilà tout ce qu'ont obtenu les Turcs en contrepartie de cet engagement hypocrite de l'Europe de dire « vous gardez les réfugiés et puis on paye, on veut rien savoir ». Et en plus, ça ne marchera pas. On verra que cela ne marchera pas. Donc c'est vraiment une catastrophe sur le plan de la construction européenne dans la mesure où on est éloigné de nos propres valeurs de départ. Et ensuite, c'est inefficace et cela n'apportera rien de bon au système actuel. Ce qu'il faut, c'est précisément l'inverse. Il faut que les États se mettent d'accord sur une véritable politique migratoire, sur la manière de gérer les frontières extérieures. Et là, on pourra enfin traiter le problème dans sa réelle mesure.
Et en disant, en plus, si possible, en respectant les droits de l'homme, puisque c'est ça la vertu de l'Europe.
Tout à fait.
Aux uns et aux autres, je dis bonne semaine à tous. Et malgré ces mauvaises nouvelles, eh bien, souhaitons que, avec le beau temps, les choses iront mieux. Bonne semaine.